Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Et oui, vous continuez à écouter Graphite, nous vous en remercions. C'est Biotine qui prend le relais maintenant entre 12h et 13h tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël et je suis encore et toujours accompagné par Carole aujourd'hui. Bonjour,
bonjour
Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Comment vas-tu Carole?
Très bien.
Nous sommes le 29 février,
oui.
Qui est une journée un peu particulière. Ça tombe une fois tous les 4 ans. Je ne sais pas ce que
c'est
je
vrai.
Faisais le 29 février 2016. Je n'en ai aucune idée. On ne sait même pas quel jour de la semaine ça tombait. Est-ce que ça tombait un week-end, un samedi, un jour de semaine? On ne sait pas. Mais c'est assez particulier cette journée du 29 février. On voit par exemple que, et ça je trouve ça quand même assez intéressant au niveau de l'éphéméride, c'est la journée internationale consacrée à la sensibilisation aux maladies rares. Donc c'est bien.
Tous les 4 ans.
Une fois tous les 4 ans, ça suffit. C'est tellement rare qu'en fait on n'a pas besoin d'en parler tous les ans. Donc là le 29 février, c'est la journée internationale de sensibilisation aux maladies rares. Au niveau de l'éphéméride, on va monter très très loin au 16e siècle. Le 29 février 1504, alors je ne savais pas que le 29 février existait déjà à cette époque, Christophe Colomb parvient à intimider les indigènes de Jamaïque et obtenir d'eux des vivres en prédisant l'éclipse lunaire. Qu'est-ce qu'il
était fort, oui.
Naissance le 29 février 1860 de Hermann Ulrich. C'est un ingénieur américain, inventeur de la mécanographie. En fait, la fin du 19e siècle connaît le passage de la mécanique trop lente et astringente à l'électromécanique. Et en réponse à un concours qui a été lancé par le Bureau américain du recensement, eh bien, Hermann Ulrich construit une espèce de machine à statistiques, une machine avec des cartes perforées ça regroupe 210 cases nécessaires pour recevoir toutes les informations requises. Il dépose la demande de brevet en 1887 et grâce à cette machine, le recensement qui était auparavant manuel est traité en 3 ans seulement, ce qui était à l'époque une véritable révolution. Par la suite, Hermann Ulrich s'inspire d'une idée de son collègue John Billing, qui est directeur des statistiques de santé, et qui lui suggère d'utiliser un métier à tisser pour mécaniser cette lecture de ces fiches de recensement et pour accélérer le traitement. Ulrich, il va quitter l'administration, il va fonder la Tabulating Machine Corporation, qui deviendra plus tard l'International Business Machines Corporation. J'ai un anglais minable,
magnifique,
mais si vous
magnifique.
Prenez les initiales, vous tombez sur IBM. Et donc, c'est lui qui est à la naissance, à la création d'IBM. Nous sommes en 1917. Il y a une société filiale du groupe IBM qui va, dès sa création en 1934, cette société s'appelle Deomag, elle va contribuer par la fourniture de ces fameuses machines à la gestion administrative assez intéressante, et ils vont le fournir au régime nazi et donc contribuer en améliorant la détention et la gestion des fichiers individuels, améliorer à faciliter la logistique de la solution finale. Comme quoi ça mène un petit peu à tout malheureusement. C'est donc la naissance le 29 février d'Hermann Ulrich. Décès de John Theophilus Desaguliers. Desaguliers, très bien. Il est mort le 29 février 1744. C'est un pasteur anglican, scientifique, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie dite moderne, ce pourquoi il est principalement connu de nos jours. Il est aussi un ardent défenseur et propagateur des idées de Newton, tant scientifique que philosophique et politique. Voilà le décès de John Theophilus Desaguliers pour ce 29 février. C'est l'éphéméride qui nous permet d'évoquer certains décès de scientifiques dont les noms ne nous disent rien. Il y a un autre scientifique qui vient de décéder. Son nom ne nous dit pas grand-chose. Il s'appelait Lawrence Tesler. Alors, on l'appelle Larry Tesler. Et il est décédé le 17 février dernier à l'âge de 74 ans. Et pourtant, on s'en sert tous les jours. C'est lui l'inventeur de la fameuse commande copier-coller. Il est né en 1945. Il avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant d'imprimantes américain Xerox. Et il avait donc inventé le coupé-coller. Copier-coller, et c'était bien sûr quelque chose qui a vraiment révolutionné la pratique de l'informatique, bien évidemment. Il a été diplômé de l'université de Stanford. Il a été spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo, bien sûr au niveau du centre de recherche et développement de Xerox. La capacité à couper et coller un morceau de texte sans passer par de nombreuses étapes compliquées aurait été inspirée par une technique antérieure à l'ère numérique qui consistait à couper des portions de phrases imprimées, à les fixer ailleurs avec du ruban adhésif. Donc lui, il a informatisé tout ça, bien sûr. La commande est entrée dans les mœurs grâce à Apple, qu'il avait installé sur son ordinateur en 1983 et en 84 sur le Macintosh. Et Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, avait débauché Larry Tesler de chez Xerox en 1980. L'ingénieur y a donc passé 17 ans dans la firme à la pomme, accédant à la position de chef scientifique. Et ensuite, il avait créé un petit peu des start-up, il avait continué un petit peu à travailler dans ce domaine-là. Mais en tout cas, voilà, l'inventeur du copier-coller est mort. Larry Tesler, décédé donc il y a quelques jours à l'âge de 74 ans. Il était intéressant dans cette émission qui parle d'actualité scientifique d'évoquer un petit peu sa mémoire. Il y avait cet article de France Info dont le titre, je trouvais, était un bel hommage. Le titre, c'était « L'inventeur du copier-coller est mort, virgule, l'inventeur du copier-coller est mort, point ». Je trouvais que c'était un bel hommage oui. de France Info pour le décès de Larry Tesler. On retrouvera dans cette émission Anne Fleur pour InnoCity. Je vous rappelle le principe de la chronique d'Anne Fleur. Elle choisit une ville ou un pays et nous parle un petit peu des inventions qui ont été créées. Là, on va aller dans un pays assez éloigné, tellement intéressant, c'est l'Inde qu'on évoquera tout à l'heure avec Anne Fleur dans le cours de cette émission. Voilà, Carole, peut-être qu'il est important avec l'actualité oui. maintenant qui date depuis 2 mois sur ce fameux coronavirus à qui on a enfin attribué un nom hein, il y a quelques alors, jours maintenant.
Oui.
Enfin, un nom, pas un nom très marketing, je
moi,
trouve.
Moi, j'en lis, en plus, moi, j'en lis plusieurs à chaque fois puisque je suis l'actualité.
Oui, c'est un petit peu notre experte.
Exactement, coronavirus. C'est, oui, c'est devenu mon rôle, ma mission. Alors, dans là, les articles que j'ai sélectionnés sur le sujet, on l'appelle maladie Covid-19.
C'est
donc
ça.
On a un petit peu conservé le nom, mais on voit des fois des appellations où on rajoute le préfixe SRAS aussi. Puisque de toute façon, il est apparenté au virus du SRAS. Hein. Ils sont de la même famille, simplement, c'en est un autre. Et on essaye toujours de comprendre hein, exactement déjà comment. Il y a beaucoup de recherches qui sont maintenant, notamment en Chine, sur le développement d'un vaccin, mais ça, on sait que ce sera long. Les autorités étrangères disent à peu près 18 mois, la Chine sous-entend qu'elle pourrait accélérer le processus. Nous verrons, en tout cas elle met les moyens. Et on essaye surtout de comprendre en fait comment il se transmet aussi bien, puisque les cas ne font qu'augmenter. Donc là, moi, j'ai un petit peu regardé dans les différents articles quelles étaient les nouvelles et essayer de faire un peu le point sur ce qui se passe donc, au niveau du coronavirus qui, sur toute la semaine passée, hein, nous a révélé qu'il y avait encore de nouveaux foyers en Chine, en Asie, mais également pas loin de chez nous.
Bien sûr.
Alors, il y a donc des nouveaux cas tous les jours qui sont recensés. Alors après, on pourra parler de l'exactitude des chiffres, hein, on en parlait ensemble. Mais c'est cette apparition justement de nouveaux cas, notamment récemment en Corée du Sud, en tout cas de manière significative, hein, en Iran, ainsi que dans des hôpitaux, dans les prisons chinoises, où il y avait plus de 500 personnes d'un coup qui apparemment étaient censées être contaminées. Ça relance les inquiétudes donc, sur la propagation d'une épidémie qui a fait déjà donc, largement plus de 2000 morts. Forcément, l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, elle appelle la communauté internationale à frapper fort contre ce virus qui, du coup, a contaminé. Alors, on est pareil, au-dessus des 75 000 personnes en Chine et on est à plus de 1000 personnes dans le monde. Et encore une fois, est-ce qu'on a encore tous les éléments, tous les chiffres, tous les nombres de cas recensés? On passe certainement à côté d'une partie. Alors, il y avait eu un moment, un espoir, là, il y a une dizaine de jours, avec une baisse, parce qu'en fait, c'est ce qu'on surveille, c'est la baisse du nombre de cas de personnes qui ont contracté le virus. Et c'est reparti ensuite à la hausse. Donc, à suivre. Donc là, on va dire il y a à peu près 8 jours, on surveillait cette baisse et l'inquiétude est remontée puisque il y a d'un coup tout un pool de nouveaux cas qui ont été identifiés. Donc je le disais, dans les hôpitaux, donc notamment à Pékin, et dans vraiment différentes prisons du pays, et notamment au moins 200 personnes au sein d'un même établissement pénitentiaire. C'est que ça commence aussi à être compliqué. Alors, on rappelle quand même que la Chine, elle a fait des efforts énormes pour mettre en quarantaine des dizaines de millions de personnes, notamment dans la province du Roubaix, hein, qui est l'épicentre de l'épidémie avec donc, son chef-lieu, Wuhan. Et depuis quand même des semaines, de nombreux Chinois restent cloîtrés chez eux en raison des mesures de confinement. Plusieurs États ont par ailleurs interdit l'entrée des voyageurs en provenance de Chine. Et on sait également que de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le pays. Donc, avec toutes ces restrictions, malgré tout, on a annoncé un deuxième pays, finalement, avec un foyer très important de la maladie, c'est la Corée du Sud, avec en fait des cas assez importants qui ont été identifiés au sein d'une secte chrétienne. Les fidèles de l'église, donc Shincheoji de Jésus, je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc la ville de Daegu, qui est donc au sud-est, a été placée également. Enfin, en tout cas, ils ont essayé de limiter les déplacements des personnes. La population est donc invitée à rester chez elle. Et de nombreuses personnes donc multiplient le port des masques et en tout cas de tous les moyens de prévention possibles à disposition. L'Iran, qu'on surveille également attentivement, puisqu'il y a eu la confirmation de 3 nouveaux cas la semaine dernière. Et la mort en fait de plusieurs personnes. Donc voilà, on peut s'inquiéter aussi de la propagation du virus au Moyen-Orient, puisqu'on n'en avait pas trop parlé jusque-là. Et également, l'autre sujet au Japon, c'est la polémique, toute la polémique qui existe autour du bateau de croisière, donc le Diamond Princess, qui a été placé donc en quarantaine en banlieue de Tokyo depuis début février, maintenant 2020. Alors, on le sait, donc l'histoire est très compliquée. Il y a eu, donc les personnes ont été placées en quarantaine alors qu'il y avait eu beaucoup de cas diagnostiqués. Certains ont pu débarquer, d'autres après ont débarqué parce qu'ils nécessitaient d'être hospitalisés. D'autres ont été débarqués pour être rapatriés. Enfin, c'est vraiment assez complexe. Et moi, notamment, je trouve ce cas qui est assez révélateur, c'est qu'il y a eu donc des Australiens qui ont été débarqués, qui sont revenus en Australie, qui avaient été diagnostiqués négatifs. Et qui, en fait, à leur retour, ont été testés visiblement donc positifs et donc pris en charge. Et donc ensuite, ces personnes-là sont mises en quarantaine, finalement, dans leur pays. Mais je trouve qu'en fait, ce cas-là, il illustre pas mal d'autres histoires où on voit que, donc déjà, on n'arrive pas de manière encore vraiment fiable à attester qu'une personne soit forcément positive au virus, puisqu'on passe à côté de certaines personnes.
C'est dû au temps d'incubation ?
Et alors, le temps d'incubation, c'est pareil. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, à un moment, on s'était mis d'accord sur à peu près 14 jours. On comprenait bien que c'était aussi pour être sûr que la période soit suffisante. Finalement, c'était redescendu à 12. À un moment, on a dit que c'était certainement peut-être 6. Et puis après, c'est remonté. Donc, je crois qu'il y a encore énormément d'incertitudes parce qu'on voit que la communauté scientifique internationale, elle reste extrêmement prudente. Mais en tout cas, ce type d'histoire montre bien aussi comment il y a une dissémination du virus, finalement, qui se fait aussi par ces mouvements de population. Et surtout, finalement, le Diamond Princess a été un formidable lieu, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais de propagation, en fait, du virus.
Ah, c'est la croisière s'amuse.
Oui, enfin, moi, je suis bien contente de ne pas avoir été invitée, personnellement.
Tu m'étonnes.
Et alors, soi-disant, les gens étaient confinés dans leur cabine, mais ça a aussi lancé cette discussion sur, finalement, est-ce qu'on est certain de tous les modes de transmission, parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on n'explique pas encore. La grosse inquiétude, en fait, de l'OMS, c'est de réussir à vraiment contenir l'épidémie pour ne pas aller jusqu'à ce qu'on va appeler une pandémie. Où là, ça veut dire que les conséquences, les gens touchés, ce sera encore plus important. Et selon l'OMS, en fait, là, il y a une fenêtre de tir en fait, qui pour permettre de réduire encore l'épidémie et de la contrôler. Et donc, ils essayent d'alerter au maximum, puisque pour eux, on risque de la rater, en fait, de manquer le coche. Du côté de la France, il y a encore eu donc, des rapatriements, des personnes qu'on a mis en quarantaine, cette fois-ci donc, en Normandie. On poursuit, on suit la situation et on peut commencer aussi à s'inquiéter de toutes les répercussions économiques. On n'a pas du tout pour l'instant de recul sur ce sujet-là, puisque beaucoup de Chinois ont repris le travail. depuis déjà la semaine dernière, hein, même si on avait prolongé donc leurs vacances pour les festivités du Nouvel An, qui finalement ils ont passé confinés chez eux. Hein. Mais le pays est toujours vraiment au ralenti. Beaucoup d'habitants restent chez eux. On décrit des commerces et des rues désertes, des écoles qui sont encore fermées. On sait qu'au niveau de la production, il y a pas mal de marques qui ont déjà fait savoir qu'elles auraient des soucis d'approvisionnement, justement. Donc, affaire à suivre sur ce point-là.
D'un point de vue économique, on est qu'au tout début d'une crise, en fait. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Un grand pays comme la Chine à l'arrêt, c'est certain qu'il y a des répercussions pour la Chine, mais pour tout le au niveau international. Il ne faut pas... Voilà, c'est évidemment des effets collatéraux qui vont avoir lieu sur un aspect, au départ médical, assez dramatique. Comment on arrive à savoir si on est porteur de ce virus? C'est quoi le test, en fait?
Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça passe par un prélèvement sanguin, comme le virus a été séquencé.
D'accord.
J'imagine, alors là, je n'ai pas le détail, mais j'imagine qu'il y a certaines séquences qu'ils ont ciblées, parce que, à mon avis, ouais. et qu'ils arrivent à trouver en faisant donc l'analyse au niveau du sang, mais visiblement avec une marge d'erreur, hein, et donc des personnes qui peuvent passer au travers des mailles du filet.
Cette anecdote avec les Australiens qui, au départ, ne sont pas...
Sont visiblement non porteurs, et qu'une fois en Australie, le sont.
C'est assez étonnant. Après, peut-être que les tests ne sont pas les mêmes.
J'imagine que c'est quand même un peu similaire. Peut-être aussi, était-il encore en période d'incubation? Peut-être que le virus était moins détectable? Il peut y avoir plein de raisons qui ne sont pas du tout expliquées dans les articles, en fait. L'information est trop légère.
Parce qu'on peut le détecter à partir du moment où il est quand même en quantité assez importante dans le sang, sûrement, alors.
Oui, ou alors soit le test n'a pas fonctionné, parce qu'à mon avis, c'est possible et c'est pas non plus fiable à 100%, soit ils étaient peut-être pas... en effet, ça n'a pas été détecté à ce moment-là et c'était bien détectable par la suite. Là, j'ai pas la réponse.
L'OMS, tu évoquais tout à l'heure, un petit peu au début, dit il faut frapper un grand coup.
Oui, c'est pour ça que j'ai cité.
Non, mais ils ont raison. L'OMS a raison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que préconise l'OMS, qui est quand même, depuis un certain temps, assez muette sur le sujet? Assez étonnant de ne pas... les messages de prévention, de précaution sont assez basiques. On a l'impression que c'est une espèce de vilaine grippe qui est en train de circuler. Enfin, c'est assez étonnant ce mutisme de l'OMS, parce que ils n'ont pas assez d'éléments, mais même si on n'a pas assez d'éléments, il n'empêche que des messages de prévention peuvent être faits. Donc il faut frapper un grand coup, mais...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi le jeu des articles qui font un peu du sensationnalisme, mais ne nous donnent pas vraiment après les informations qui nous intéressent. Alors, ils ne les ont pas forcément. C'est aussi le jeu de tous ces interventions politiques, parce qu'en fait, il y a de ça. Il y a toutes les relations. On sait qu'à un moment, la Chine a fait pression extrêmement fortement sur l'OMS pour que justement elle ne déclare pas la maladie comme justement une préoccupation internationale, mais que ça reste national à la Chine, alors que c'était déjà une préoccupation internationale. Ça a fini par du coup passer sur ce statut-là, parce qu'en fait c'est important justement que ça évolue selon ces statuts, parce que c'est pas après les mêmes procédures, de ce que je comprends, ni le même engagement qui par toutes les puissances qui est mis derrière. Mais ça a mis longtemps, parce que justement, il y a eu tous ces vieux réflexes de la Chine qui, mine de rien, a réussi quand même à faire suffisamment pression pour retarder les choses. Donc en fait, c'est une bonne question. Il y a des pays où on a l'impression qu'ils prennent la mesure des choses et on voit quand même des gens... Alors on sait que de porter un masque chirurgical ne protège pas de la contamination, mais c'est quand même une première barrière. Ça veut dire que déjà aussi, si jamais on est touché, on évite de contaminer les autres, si on reste à une certaine distance quand même, le fait de porter un masque. Moi, je suis assez étonnée qu'en France... Mais déjà, en France, c'est pas du tout le message du gouvernement, des autorités. C'est pas du tout culturel non plus chez nous. Oui. Et donc, en France, il n'y a pas de... Moi, j'avais vu à un moment apparaître un ou deux masques dans la rue qui ont complètement disparu. Là, je ne vois personne... je ne vois pas de changement de comportement ou des gens faire plus attention. Non. Alors moi, à titre personnel, je fais attention. Je me lave beaucoup les mains. Mais mais il faut renforcer vraiment la vigilance, l'hygiène, le fait aussi de poser la question, de savoir si on est avec des personnes qui sont malades, quels sont les symptômes, de faire attention aussi à soi. Si on a des premiers symptômes respiratoires, il faut alerter.
Est-ce que, si on prend beaucoup de recul sur ce sujet-là, j'évoquais tout à l'heure le fait que ce soit une vilaine grippe, mais en France, une vilaine grippe fait beaucoup plus de morts que ne l'a fait le coronavirus
pour l'instant.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, quelque part, qui fait que... on a l'impression que finalement, c'est loin, en fait.
Peut-être. Peut-être, sachant que c'est vrai que quand on découvre le nombre de morts de la grippe, on se rend compte qu'on pourrait quand même un peu s'offusquer.
Mais oui, je pense.
Il n'y a pas tous ces articles, parce que finalement, ça touche aussi beaucoup les personnes vulnérables. Alors, est-ce qu'on s'en fiche ?
On a un peu l'impression qu'on passe à côté, en fait, que ça ne nous concerne pas. Donc, du coup,
Alors que si, on a réussi à réduire. Enfin, le nombre de décès chaque année reste extrêmement élevé. Alors maintenant, encore une fois, ils ne sont pas tous d'accord sur le taux de létalité du coronavirus, Covid-19. Il y a des débats, etc. Mais par contre, ce serait beaucoup plus élevé que la grippe. Ce qui veut dire qu'à terme, quand à un moment on aura fait tout, on verra quand l'épidémie, j'espère quand même, va évoluer vers une baisse et que tous les calculs seront faits et que les scientifiques auront encore plus d'informations, etc. On se rendra compte certainement qu'entre guillemets, ça a fait plus de morts. En faisant les calculs avec le nombre de personnes touchées, etc., le coronavirus, pour l'instant, a un taux de létalité qui est beaucoup plus élevé que la grippe, qui, je crois, est à 0,2-0,3%. Pour l'instant, on est toujours sur du 2%.
On est toujours sur du 2%. Pour que les auditeurs comprennent bien, le principe d'un virus est un parasite. C'est-à-dire que, c'est l'idée du parasite, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose de vivant.
Il a besoin de nos cellules
pour pouvoir vivre,
reproduire quelque part. Oui.
Et du coup, il y a eu, j'en parle peut-être au passé, parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience ou de raisonnement, quoique parler de raison et de société, ce n'est pas toujours aussi évident, mais de ces fameux colis ou autres produits qui venaient de Chine, tout ça, il est évident que si on reçoit un canapé fabriqué en Chine, il n'y a pas de virus dedans. Il peut y avoir plein d'autres choses totalement néfastes, ça c'est un autre sujet, mais en termes de virus, il ne va pas pouvoir survivre longtemps sur une surface, inerte, oui, c'est le mot que
Alors,
je cherchais.
Normalement, justement, il avait été dit, j'avais lu à plusieurs reprises, et puis ça avait fait l'objet d'échanges avec des gens du milieu médical, que normalement, le virus ne survivait pas sur des surfaces justement inerte, alors que je crois que justement le virus de la grippe peut survivre jusqu'à 2 jours, alors que là apparemment c'était pas le cas. On se rend visiblement compte que dans certains cas de figure évoqués là précédemment, on a des doutes sur les modes de transmission, ils ne sont pas encore tous identifiés. Donc, bonne question. Maintenant, un canapé qui a voyagé pendant X semaines ou même jours pour arriver depuis la Chine, non, normalement il n'y a aucun risque. De toute façon, passer une période de 2-3 jours, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de virus qui survivent comme ça sur une table. Non, ça, il ne faut pas s'inquiéter.
Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, bien évidemment, ce qui n'évite pas d'avoir des gestes de précaution.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres points ? Oui,
alors,
je suppose.
Alors oui, pour finir sur une... Alors, ce n'est pas une petite note un peu plus légère, mais ça fait réfléchir aussi, hein, justement. Donc, j'ai dans Science Post lu un article qui explique en fait que peut-être que les Chinois pourraient se voir attribuer une couleur qui correspondrait à leur état de santé. Et donc on a une histoire de QR code, on va voir ça. Oui, alors, parce que justement, ils réfléchissent à des solutions, hein, évidemment, quand pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Le gouvernement chinois, en fait, s'est associé avec donc, 2 importantes sociétés locales pour développer un nouveau système de QR code qui comporte différentes couleurs. Suivant le code attribué, les citoyens sont susceptibles d'être priés de rester chez eux plus ou moins longtemps. Alors, c'est
donne-nous les couleurs.
C'est voilà, oui, qu'on sache. C'est un moyen pour lutter, pour l'instant, contre la propagation du coronavirus. En fait, ça a été relayé au départ par un quotidien donc de Hong Kong, donc parce que le bilan s'alourdissant. Hein. Alors, on oublie d'ailleurs de citer qu'il y a des personnes qui sont quand même guéries. Et là, j'avais un chiffre qui date, alors chiffre sur la Chine qui daterait d'il y a au moins 8-10 jours, plus de 10 000 personnes qui seraient guéries officiellement.
Mais en France aussi, de toute façon, il y a des personnes hospitalisées qui sont sorties. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on en parle très peu au final.
Évidemment, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de parler des morts. Ça fait vendre, Carole.
Voilà. Donc, heureusement, ces personnes guéries, alors quelle couleur, justement, elles vont pouvoir avoir. Normalement, ça devrait aller. Et alors, le gouvernement chinois, pour lutter contre la propagation, il s'est associé pour développer une nouvelle application mobile. Ça a été fait en collaboration avec Alibaba, qu'on connaît bien, et Tencent, hein, de géants du numérique en Chine. Et pour donc attribuer un QR code aux citoyens et permettre de connaître l'état de santé, eh bien, les habitants doivent d'abord remplir un formulaire en ligne, renseigner un numéro d'identification. Alors, ils doivent ensuite indiquer s'ils ont voyagé hors de la ville, faire part de la présence ou non de symptômes de type fièvre, toux. Après la procédure, ils se voient attribuer un code QR. Alors, j'imagine que les questions sont quand même un petit peu plus développées, hein, qui pourrait être scanné par un tiers, ce code. Là, ça fait vraiment penser au film de science-fiction. Et ce serait un laissez-passer, en fait, pour aller dans les différents établissements, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, en passant par les supermarchés. Alors, il y a eu, pour ce QR code, l'édition en trois couleurs différentes. Rouge, jaune et vert. Je pense que c'est assez parlant. Si le code est rouge, la personne doit rester confinée chez elle 14 jours. Donc là, c'est la peine maximale. Si le code est jaune, la période de confinement est de 7 jours. Enfin, donc je pense que ça, c'est pour les cas un peu intermédiaires, on n'est pas sûr. Enfin, un QR code vert, eh bien, là, on a une liberté totale de mouvement. Alors, ça a commencé en fait à être testé déjà. En fait, ça a été imposé aux habitants de Hangzhou. C'est une ville qui fait l'objet de mesures de confinement depuis plusieurs semaines. Si je dis pas de bêtises, c'est une ville qui est un peu plus au sud de Shanghai. Et donc, bah, le test, pour l'instant, se poursuit, hein, et on va voir si le dispositif sera déployé dans l'ensemble du pays ou non.
Attends, que je comprenne bien, qui remplit ce formulaire ?
Chaque personne, en fait.
Alors, tu remplis ce que tu veux.
Oui, alors après, j'imagine...
Il y a des contrôles.
J'imagine qu'ils ont quand même pensé, oui. Et puis, il y a peut-être aussi là-dessus une différence de culture. Tout de suite, la réaction française, Jean-Noël.
Je sais.
Ou
voilà.
Peut-être aussi que les Chinois là-dessus seront plus disciplinés et plus honnêtes que ce qu'on pourrait faire, nous.
Souhaitons-le, c'est vrai.
C'est à l'étude, c'est en test. Hein. Je pense qu'après, ils vont certainement essayer de croiser ça avec les chiffres des nouveaux cas. Ou j'imagine que c'est pas juste, ils vont lancer le questionnaire et puis rien ne va se passer. J'imagine qu'ils ont quand même prévu. Il n'y a pas plus de détails pour l'instant, mais on suit l'info.
Ça me fait penser un petit peu à ces pastilles de couleur que l'on met sur le pare-brise de nos véhicules pour pouvoir rentrer ou non dans Paris. C'est un peu le même principe, en fait. Une espèce de...
Est-ce qu'on peut tricher à avoir la mauvaise vignette critère ?
Bien sûr. Non, parce qu'en fait, c'est sur la base de la date de ton véhicule et de son... de sa puissance et du carburant que la voiture utilise. Donc non, tu rentres dans certaines cases. Mais tu peux peut-être tricher, oui. Mais est-ce que ça vaut la peine de tricher sur, sur des vignettes automobiles ? C'est une chose. Est-ce qu'il faut tricher sur la santé comme ça ? Mais parce que derrière, on parlait tout à l'heure d'économie, mais enfin, il ne faut pas se leurrer non plus. Ça va être une vraie problématique pour des Chinois qui ne travaillent pas, qui sont chez eux. Enfin, il y a aussi une vie et une famille à tenir. Mmh. Tu as peut-être aussi parfois un intérêt à être vert
qu'être
rouge. C'est
bien
ça
sûr.
Aussi qu'il va falloir que tu sois honnête ou pas. Derrière, tu as aussi des impératifs à suivre. C'est très compliqué, en fait.
Oui.
Et on voit que on reste quand même quelque part dans un certain amateurisme et une totale méconnaissance de la situation qui, elle, ne ralentit pas. Tu disais quand même 18 mois pour un vaccin,
c'est la période classique.
Oui.
Après, ce qui est certain, c'est que là, je pense qu'il y a de gros moyens qui vont être mis en place. Donc peut-être, c'est-à-dire que là, pour même compléter cette information-là, il y avait des premiers tests qui allaient déjà être réalisés par des équipes chinoises. Alors on sait, on en parle souvent dans l'actualité de ce qu'ils font en termes de biologie, d'expérience, ou souvent quand même en termes d'éthique et de bioéthique, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc là, ils sont partis à fond. Et des premiers tests, je crois, sur les animaux. Encore pas sur les humains, mais s'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Non, mais sur les animaux, en ce moment, déjà.
Eh bien, on suivra bien sûr avec notre experte en coronavirus, Carole.
Et je vais suivre l'affaire des QR codes, savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça a été abandonné, parce que peut-être que justement, ils vont voir que, en fait, ça n'a pas eu d'impact.
À voir. Je ne sais pas. Ce sera intéressant à voir, parce que ça peut être une vraie expérience à grandeur Grindeur réel, j'avais prévu pour enchaîner de parler d'un article qui évoquait la découverte d'un mystérieux virus dans un lac brésilien. Il s'appelle le Yara virus, du nom de la reine de l'Amazone, Yara. Et ce virus infecte des amibes. Alors les amibes, non, je ne suis pas enrhumé, on dit bien amibes. Amibes, oui. C'est un protozoaire qui vit dans l'eau, hein, donc une petite cellule vivante unique et totalement autonome. Et on voit que ce virus ne possède aucune des caractéristiques habituelles des virus déjà connus et qu'il possède 90% des gènes qui n'ont jamais été identifiés jusqu'ici. Donc ce mystérieux virus inquiète un peu parce que, alors certes pour l'instant ça touche des amibes, mais on se dit qu'il y a quand même une diversité vraiment très très importante du monde des virus, ça ne finit pas de bluffer les scientifiques. On recense environ 9000 espèces de virus dans les banques de données génétiques, mais les scientifiques estiment qu'il en existe plusieurs millions. Donc c'est aussi un domaine que l'on découvre de plus en plus et que l'on découvre peut-être parfois malheureusement a posteriori quand la situation arrive, bien évidemment.
Il y a encore beaucoup de recherches, tout à fait.
Oui. Beaucoup de recherches. Je ne vais pas détailler cet article parce que du coup, ça devient quand même assez anxiogène cette émission. Hein, et puis, on va peut-être aussi se faire une petite pause musicale dans cette émission de Biotine. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet aujourd'hui. 29 février, c'est quand même un week-end spécial. C'est la Compiègne Geek Convention. À Compiègne, c'est précisément plutôt à Margny. Margny et Compiègne au Tigre. Aujourd'hui et demain, 1er mars, cette Compiègne Geek convention avec des jeux de plateau, des espaces gaming, conférences, expos, boutiques, concerts, artistes et cosplay. Et tu me disais cosplay tout à l'heure quand je t'ai posé la question juste avant l'émission, parce que je ne savais pas ce que c'était.
Je suis spécialisée. Alors après, attention, s'il y a des fans qui nous écoutent. Mais en tout cas, c'est de créer des costumes et de se grimer comme ces personnages favoris des mangas. Donc, ils créent souvent des costumes qui sont assez extravagants, difficiles à faire. Et on se croirait vraiment, on fait une plongée dans cet univers, en fait.
Eh bien, ça doit être génial. C'est en ce moment même. Donc, renseignez-vous au Tigre, à Margny et Compiègne. Compiègne Geek Convention, ce week-end, le rendez-vous pop culture. On en parlera bien sûr tout à l'heure et c'est sûrement aussi en lien avec l'émission Geekique sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. On écoute un petit peu de musique parce que ça va nous faire du bien. On va découvrir en même temps que vous, d'ailleurs, j'ai totalement mis de côté, je ne sais plus, il est là, voilà, c'est Ali Danel sur mon île, sur l'antenne de Graphite. Et puis on continue à feuilleter, bien sûr, l'actualité scientifique. Peut-être un petit peu plus réjouissante, Carole ?
Oui, on va avoir des sujets très sympathiques. Je ne dis rien, je conserve le mystère.
Ça s'appelle du teasing. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Tout ce que tu aimes sur la terre, un jour l'océan l'avale. Alors si ton chagrin est abyssal, plonge la tête la première. Le bonheur c'est pouvoir nager parmi les sacs en plastique vers une belle lumière dorée qui fend la pénombre aquatique. Allez viens sur mon île, c'est une île de plastique. Oui mais on est bien sur mon île. Écoute la dernière baleine. Écoute la dernière baleine. Le bonheur c'est savoir nager contre tous les courants obscurs qui voudraient parfois nous faire dériver là où ils conduisent nos ordures. Allez viens sur plastique. Oui, mais on est bien sur mon île. Écoute la dernière baleine. Écoute la dernière baleine.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Ali Danel avec Sur mon île sur l'antenne de Graphite. C'était agréable, c'était doux. Ça nous a fait du bien après tes informations très anxiogènes, Carole.
Enfin, juste parce que moi aussi j'écoutais les paroles, je me laissais bercer sur mon île de plastique. Hein.
Oui, oui, parce que de toute façon c'est un petit peu la couverture
donc,
de son album.
Voilà,
aussi,
je crois qu'il dénonce quelque chose,
il
non
Il dénonce quelque chose, mais d'une façon assez douce et agréable. C'était Ali Danel sur Graphite. Vous écoutez bien tous les samedis entre 12h et 13h. On fait avec vous un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir informé de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier et donc l'information aussi médicale. On a bien compris que c'était assez important aujourd'hui. Et puis maintenant, Carole, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je fais des petits points conso du jour pour ceux qui veulent être équipés de casques à réalité augmentée. Mais là, on parle de ceux qui équiperont certainement plus de 40 000 soldats américains dans le futur et qui permettront apparemment de voir à travers les murs.
Ah, je crois que c'était à travers les habits.
Non,
à travers les murs.
Ça ne sert pas trop. Alors même si peut-être en temps, on va dire, d'attaque terroriste, ça peut servir de détecter les ceintures. Non, Jal, on les voit, je crois. Donc, oui, c'est pas drôle. On avait dit que...
Très anxiogène.
Donc, c'est un peu... Non, c'est un petit point technologie, hein, puisque l'année dernière, en fait, il y a eu des casques de réalité augmentée Microsoft HoloLens 2 qui avaient été donc testés par l'armée des États-Unis et elle avait signé un contrat avec le géant du numérique. Dès 2021, les soldats auront à leur disposition des dizaines de milliers de ces casques qui seront d'ailleurs apparemment customisés. Alors, j'imagine pour que ça puisse se fondre dans une tenue militaire. Hein. Alors, pour les armées, en particulier celles des États-Unis, c'est important de progresser en matière de technologie. Et donc, l'US Army, eh bien, elle, apparemment, hein, elle a envie d'investir donc, sur le Microsoft HoloLens 2, dont la commercialisation a débuté, c'était en fait en 2019. L'armée américaine, elle n'avait pas attendu très longtemps pour mener une série de tests afin de comprendre en fait, si ce type de casque pouvait réellement être utile aux soldats sur le terrain. Alors, on le rappelle, on parlait en fait d'un contrat historique de 480 milliards de dollars entre l'US Army et Microsoft.
Ah oui, quand même.
Oui. Après, évidemment, il y a des détails qui restent inconnus et qui n'ont pas, n'ont pas fuité. Comme l'explique le magazine Army Times, magazine certainement passionnant, donc dans un article récent hein, qui date du 11 février, la fameuse première commande, elle concernerait déjà 40 000 unités. J'imagine déjà, ça permettra de se faire une bonne idée de ce genre de casque et de leur utilité. Alors, ce ne sont pas les mêmes casques que ceux qui sont disponibles, bien sûr, au grand public. Belgique. Ils sont dérivés de l'original et en fait, c'est une nouvelle version de l'IVAS, donc l'Integrated Visual Augmentation System. Elle sera notamment prête pour 2021, justement, et les premières livraisons, pour permettre aux troupes de bénéficier d'une assistance sur le terrain, mais également de générer des environnements propices à leur entraînement. Donc apparemment, cet outil leur offrira de multiples possibilités. Il peut générer une carte affichant la localisation des autres soldats, une boussole, le réticule de l'arme portée par l'utilisateur, sa fréquence cardiaque, ainsi que le balayage de son regard. En outre, il pourra scanner un terrain et même voir dans le noir ou à travers les murs grâce à des capteurs thermiques et infrarouges. Alors ça, on avait l'impression que ça existait un peu déjà, mais l'impression que là, c'est plus poussé et que le même, finalement, outil, donc ce même casque, hein, il va centraliser de nombreuses fonctions. Alors, il avait été dit que l'armée américaine, elle voulait équiper de plus en plus de soldats d'ici à 2028 et elle pourra déjà, en tout cas avec cette première commande, équiper un soldat sur quatre.
C'est quand même déjà pas mal. Ouais. Je t'emmène assez loin, Carole. Je t'emmène en Inde.
Oui.
Enfin, je t'emmène en Inde. C'est Anne Fleur qui nous emmène en Inde. InnoCity avec Anne Fleur. Elle a choisi l'Inde et elle va nous parler un petit peu des inventions qui ont été créées dans ce beau pays. C'est parti, c'est à toi, Anne Fleur. On t'écoute.
Good morning Compiègne, bonjour Jean-Noël, coucou. Donc je vous parle aujourd'hui de Boston et je suis ravie de vous amener dans un nouveau coin du monde pour en découvrir les inventions. Aujourd'hui je vous amène complètement de l'autre côté de la planète puisque nous partons en Inde. Alors pour la petite anecdote, on parle souvent de la Chine qui a une des plus larges populations au monde. Sachez que l'Inde est la seconde plus grande population au monde avec plus de 1,2 milliard d'habitants selon les chiffres de 2012. Ce qui est absolument énorme. C'est aussi le 7e plus grand pays au monde et l'Inde fait donc partie du continent Asie. Qu'est-ce qu'on y trouve autour ? On trouve donc le Bangladesh, le Burma, la Chine, le Népal, le Pakistan et le Bhoutan. Voilà. Alors, je ne peux pas vous parler des inventions d'Inde sans vous parler de votre matière préférée quand vous étiez petit. Quand je dis matière préférée, c'est parce qu'il y a de grandes chances que soit vous l'adoriez, soit vous la détestiez. Mais il y a peu de gens qui y sont indifférents. J'ai bien entendu envie de vous parler des mathématiques. Alors, l'humanité est redevable, franchement, à jamais aux Hindous pour les chiffres arabo-indiens. Et sachez donc que le zéro et la position de la virgule, donc l'écriture décimale positionnelle, comme on appelle ça, nous viennent directement d'Inde. Les principaux mathématiciens dont il faut se souvenir dans l'histoire, c'est Aryabhata, qui a calculé en fait les quatre premières décimales du chiffre pi. Pi qui arrive bientôt, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais alors aux États-Unis, c'est un grand, grand jour, on appelle ça Pi Day. Et donc Pi Day, en fait, c'est un jeu de mots, puisqu'on mange, pour la petite histoire, de la tarte, bien entendu, pie. Et en fait, Pi Day, bah, c'est le 3-14, donc c'est le 14 mars, puisqu'aux États-Unis, les dates sont présentées de manière inverse, c'est-à-dire qu'on dit d'abord le mois, puis ensuite les jours. Et donc, du coup, 3-14, eh ben, c'est pi. Voilà pour la petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'Inde, excusez-moi pour cet aparté. Donc je vous disais, les principaux mathématiciens hindous dont il faut se souvenir, donc c'est Aryabhata qui a donc calculé quatre premiers chiffres de pi et Brahmagupta qui lui a travaillé sur les séries de nombres, sur la définition du zéro. Ils ont aussi développé une série de mots qui a permis d'exprimer donc les très grands nombres jusqu'à 10 puissance 12. C'est pas des toutes petites inventions tout ça qu'on utilise quand même absolument tous les jours. Une autre invention dont je vais vous parler, c'est bien entendu la médecine indienne. Le traité fondamental de la médecine hindoue, ça s'appelle l'Ayurveda. Et ce dernier, en fait, explique les maladies qui sont dues à un déséquilibre. Et donc, en fait, pour guérir un malade, il faut remplacer les éléments qui sont nuisibles par ceux qui sont harmonieux. Donc, tout est question d'équilibre. Et donc, en fait, ce qui est très propre à la médecine indienne, c'est qu'on ne se concentre pas sur un organe ou sur un symptôme, mais que c'est une compréhension très systémique du corps humain. Voilà, enfin la troisième grande invention dont je vais vous parler, ce sont les plantes médicinales. L'histoire de l'usage en fait, thérapeutique du cannabis, c'est assez difficile à retracer parce qu'en fait, bah, les législations, toutes les lois dans le monde et donc en Inde qui régulent sa production, la distribution, la possession, la consommation, c'est tout ça hyper récent. Et la distinction entre l'usage médical, thérapeutique et en fait, finalement récréatif, ça l'est encore plus récent. Donc, on retrouve en fait mention du cannabis dans plusieurs textes anciens chinois et indiens, notamment dans le Shengnung Penzao King, le plus vieux recueil parlant de plantes médicinales, qui est attribué à l'empereur Shennong, donc là on est en Chine. Et c'est au 6e siècle en Inde que Bhava Mishra a décrit dans ses traités médicaux les propriétés et les préparations qui sont à base d'opium et de cannabis. Alors ça a été ensuite redécouvert en Occident pour ses vertus thérapeutiques. Je crois d'ailleurs que c'est un Anglais qui l'a décrit dans le Lancet, un très très grand journal scientifique, et qui décrit d'ailleurs son injection sous forme d'intraveineuse pour soigner le choléra. Bref, en tout cas, ça nous vient donc du 7e siècle en Inde. Dans un genre similaire, on a la quinine, qui est un composant aromatique de l'eau tonique. Et donc, selon la tradition, le goût aigre qui est propre à la quinine, alors je ne sais pas si vous ne le savez pas, moi je ne le savais pas personnellement, ce goût est donc utilisé en fait contre le paludisme, qui est donc cette fameuse maladie des insectes tropicaux. Et alors, pour la petite histoire, quand les coloniaux donc, britanniques sont venus s'installer en Inde, ils ont découvert ça, la quinine, et ils ont en fait bien aimé ça. Et en fait, ils ont eu l'idée de mélanger ça avec du gin, et c'est comme ça que le gin tonic est né. Voilà pour la petite histoire. Enfin, donc la dernière invention dont je vais vous parler, c'est la morphine. La morphine, elle est produite pour l'industrie pharmaceutique, hein, c'est un gros, gros antidouleur, et elle provient en fait toujours en partie des Indes. Il existe, bien entendu, hein, des cultures légales qui sont destinées donc, à l'usage pharmaceutique. Celle qu'on retrouve en France, dans vos hôpitaux, elle n'est pas produite en Inde, hein, pour la petite histoire. Elle vient souvent de cultures directement françaises, à base de paille de pavot. Mais voilà, une grande partie de la morphine qu'on va retrouver dans le monde est cultivée de manière tout à fait légale en Inde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour d'Inde, ce petit tour en Asie vous aura fait plaisir, que vous aurez appris quelque chose. De mon côté, je vous retrouve dans une semaine pour parler d'une nouvelle destination du monde. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur. Oui, je pense que la semaine prochaine, tu vas nous emmener encore beaucoup plus loin, très très loin. On verra ça bien sûr la semaine prochaine. Anne Fleur avec InnoCity, pas mal de choses bien sûr quand on parle de l'Inde évidemment.
Et c'était très intéressant.
Et on parle.
Oui, je tentais de m'exprimer, mon micro était coupé.
C'est fait exprès. Je ne voulais pas te déranger, Carole, pendant ta story Instagram en direct.
Je fais de la pub pour Graphite.
C'est gentil de parler des réseaux sociaux.
Et pour
sociaux.
L'émission, exactement, voilà. Émission Biotine, tous les samedis de 12h à 13h.
Sur antenne de Graphite et aussi donc l'actualité de Graphite sur graphite.net et aussi Facebook et bien sûr le compte Twitter. Anne Fleur, on te retrouve donc la semaine prochaine. Merci, oui, pour ces. Ça nous a donné soif là, de parler de gin tonic.
J'ai envie d'un gin tonic.
À consommer avec modération.
Bien sûr.
Le CSA nous écoute, oui. Comme c'est la formule consacrée, bien évidemment, dans cette émission. Pour te permettre de continuer ta story Instagram, du coup, Carole, je vais juste avoir deux petites informations qui parlent d'espace. La première, ce sont les places à bord de Crew Dragon du SpaceX.
Tu as réservé
les nôtres ? Qui sont en vente, ça y est.
Oui.
Ça y est. SpaceX et Space Adventure ont donc conclu un accord qui permet aux tour opérateurs spécialisés dans le tourisme spatial de commercialiser le système de lancement habité de SpaceX, constitué donc du lanceur Falcon 9 et de la capsule Crew Dragon, auprès d'un public fortuné pour des vols spatiaux autour de la Terre.
Oui, donc bah c'est oui, pas réservé en fait. Oui.
Tu n'en sais rien. Space Adventure, qui par le passé a déjà organisé 8 séjours touristiques à bord de la Station Spatiale Internationale, c'était dans les années 2000, eh bien, prévoit maintenant de commercialiser un vol habité pour 4 personnes au-delà de l'orbite de la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire environ 410 km. C'est pas si loin que ça. Hein. C'est un Paris-Lyon, donc c'est faisable. L'idée est de battre le record mondial d'altitude pour des vols spatiaux privés et bien sûr de voir la planète Terre comme personne ne l'a fait depuis le programme Gemini de la NASA qui était précurseur des missions Apollo. Alors, ni SpaceX, ni Space Adventure ont souhaité communiquer sur l'altitude qui était visée pour battre ce record. Il y a non il n'y a pas plus d'informations sur le prix du billet qui devrait se chiffrer en millions de dollars. Pacotille,
oui.
Je te l'offre finalement. Totalement. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, si vous êtes intéressé, vous contactez donc SpaceX qui se lance dans le tourisme spatial, mais ce n'est pas la première fois, bien sûr. Hein. On se rappelle qu'en 2017, la société d'Elon Musk avait annoncé avoir trouvé un accord pour envoyer deux personnes autour de la Lune en 2018. L'identité de ces deux personnes n'avait pas été dévoilée, ce qui est quand même assez étonnant, parce que moi, je m'en vante très dans tous les réseaux sociaux, mais non,
oui,
ils ont
enfin,
resté...
Oui, je pense que c'est risqué après, je pense qu'il y a des désagréments.
Je ne sais pas. Plus récemment, en septembre 2018, SpaceX et Elon Musk avaient fait le buzz en annonçant avoir signé avec un autre client, c'est le collectionneur d'art contemporain Yuzaku Maezawa, pour un vol touristique autour de la Lune à bord du Starship. C'est en 2023, donc on suivra bien sûr. À la rigueur, tu as le temps de le contacter, hein, Yuzaku Maezawa, si oui. Tu veux y aller, tu peux l'accompagner, il n'y a aucun problème.
Il y a de la place.
Parce que il y a 6 à 8 artistes qui vont être de ce voyage, ils vont être invités par Maezawa. Je pense que Yuzaku Maezawa peut être intéressé par ton expertise du coronavirus, donc rapproche-toi de lui et tu lui feras une conférence en direct et puis en même temps vous tournerez autour de la Lune, ce qui peut être en soi assez intéressant.
Oui. Je ne sais pas si c'est très con. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les conditions physiques quand même, théoriquement, qu'il faut avoir...
Mais Carole, tu as la condition physique.
Oui,
ben, enfin,
je suis pas sûre que mon oreille interne apprécie tous les...
Tu prends les transports en commun,
oui,
parisiens,
c'est vrai,
tous les jours,
oui, oui,
tu
mais...
sais très bien que ça peut très bien se passer, c'est pas un problème. Oui, effectivement, il y a un côté physique, il faut être assez résistant, c'est certain. Ça, c'est la première information, c'est donc les billets qui sont en vente. Deuxième
oui.
chose...
On dirait qu'on parle d'un concert, mais...
c'est un peu ça, à mon avis, c'est un peu ça. La deuxième chose, c'est la NASA qui a lancé il y a quelques jours un appel à candidature pour sa prochaine promotion d'astronaute. Si tu es intéressé à être astronaute, pas de problème, tu peux donc candidater. Alors, il y a des critères.
Oui, il doit y avoir un petit peu une sélection.
Il y a des critères, être américain.
Ah, mais bon, c'est... Voilà.
Bon, c'est possible.
Ah, on ne peut pas être astronaute à la NASA si on n'est pas américain.
Ah ben non, il faut avoir un master dans une discipline scientifique.
Oui, bon, ça c'est normal.
Bon,
ça,
bah voilà.
Bon, ça c'est bon.
scientifique, technologique, d'ingénierie,
oui.
mathématique. Être médecin ou pilote, pardon.
Ah non, mais là, non. Voilà. Mais je passerai mes diplômes pour être pilote.
Alors, dépêche-toi, parce que les candidatures sont acceptées à partir de lundi, 2 mars, pendant tout le mois de mars, en
oui.
fait. Mais la sélection finale ne sera faite qu'à l'année prochaine, au milieu de l'année 2021. Donc, tu candidates, mais on vous rappellera. Donc, tu as largement le temps d'attendre. Parce qu'après, tu as une formation de 2 ans, voire plus. Ah, mais ça ne se fait pas comme ça.
Oui, on n'est pas... Bon. Mais par contre, il n'y a pas d'autres critères.
Si, mais tout n'est pas dit.
Ah, d'accord, oui.
Non, je veux dire que si tu as un
casier
judiciaire
oui.
long comme mon bras, oui, effectivement, tu ne vas pas y aller.
Voilà, non, mais donc... même, je ne sais pas, justement, d'aptitude physique, de critères un peu plus poussés. Par exemple, j'imagine que des personnes présentent certaines, pas maladies chroniques, mais ou même pathologies qui peuvent paraître bénignes quand on est monsieur, madame, tout le monde, qui là deviennent préoccupantes dans l'espace ensuite.
Vraisemblablement, après...
Si on est diabétique de type 2, si, je sais
non,
pas.
Il faut déjà avoir un diplôme. Déjà, tu as une première sélection comme ça. Après, évidemment, ça va écrémer dans toutes ces étapes que tu évoques. Évidemment, tu as beau être master de je ne sais quoi. Si tu es incapable, si tu es déjà un malade quand tu fais un tour de manège, c'est effectivement
oui,
ça risque d'être un peu compromis
ça, oui.
pour la suite. Donc oui, bien sûr. Après, voilà, ça... pour l'instant, il lance voilà, cette campagne de cet appel à candidature hein, pour des nouveaux astronautes. Donc si vous êtes intéressé, contactez la NASA, dépêchez-vous. Hein. Je rappelle que les candidatures, c'est le mois de mars. Hein. Donc vite. Les candidats qui ne disposent pas d'un master...
Mm-hmm.
peuvent toutefois postuler s'ils ont effectué 2 ans dans un programme de doctorat.
Mais toi, j'aime beaucoup.
Tu as du rattrapage, finalement.
Oui, oui,
tu as toutes tes chances.
D'accord. Sachant qu'on fait quand même généralement un doctorat après un master, de toute façon, maintenant.
Voilà. Et il y a 2 ans d'expérience professionnelle liée au diplôme.
Oui, c'est normal.
Ou 1000 heures de vol dans un appareil à réaction qui sont également requis. Donc voilà, dire que c'est pas parce que tu as piloté ton vieux coucou que ça fonctionne aussi. Non mais toi, c'est assez.
Voilà. Oui, il faut être un vrai pilote d'appareils à réaction. Donc oui.
Ouais, en fait, on nous dit que la moitié des nouvelles recrues sont en général des militaires, notamment des pilotes d'essai, bien évidemment. Mais oui, mais voilà. Si vous êtes intéressé, vous contactez la NASA. Il nous reste 7 minutes déjà. L'émission est passée à une vitesse. 7 minutes pour l'année dernière.
C'est que c'est tellement agréable en ta compagnie que voilà. Je ne vois pas le temps passer.
7 minutes, c'est agréable, c'est ça?
Non.
Ah, pardon.
Non, l'émission.
De quoi nous parle-t-il?
Alors, je vais essayer, donc en 7 minutes, de parler un sujet que j'adore, ce sujet des fossiles.
Pourquoi tu me regardes?
Parce que j'attends la réaction. Oui, et cette fois-ci, il s'agit... Bon, on avait parlé de différents fossiles, les fossiles de dinosaures, etc. Je pense que c'est toute mon enfance avec Jurassic Park. Bon. Et là, il s'agit en fait du plus vieux fossile d'abeille qui serait donc âgé d'environ 100 millions d'années. Tenez-vous bien, 100 millions d'années. C'est donc un article daté de mi-février dans Science et Avenir qui nous en parle. L'insecte, en fait, retrouvé dans de l'ambre de Birmanie, constitue une nouvelle espèce possédant certains caractères des abeilles modernes. C'est le plus vieux fossile d'abeille découvert. On estime donc qu'il serait âgé d'environ 100 millions d'années et qu'il provient de ce gisement d'ambre de Birmanie. À l'intérieur de la résine pétrifiée, gît une abeille ancestrale dont l'espèce a été baptisée Discoscapa apicula, par son découvreur qui se nomme donc George Poynard Jr. de l'Université d'État de l'Oregon. Alors, on rappelle, les abeilles se nourrissent exclusivement de pollen. D'ailleurs, amatrice de pollen, est-ce que tu sais quel est le mot pour dire ça? Une espèce qui se nourrit de pollen, qui aime le pollen.
Non, mais c'est facile à trouver ou pas?
Parce que c'est un peu, ça finit par vore, parce que c'est pas carnivore.
C'est pollenovore.
Palinivore, presque.
Palinivore
avec un Y. Oui.
D'accord, avec un Y.
Avec un Y après le L, tout à fait. Donc, pourtant, on le rappelle, les abeilles, elles ont évolué de guêpes dites apoïdes qui étaient, elles, carnivores. Et en fait, la façon dont s'est déroulée la transition évolutive entre ces deux modes d'alimentation n'est pas bien claire. L'époque à laquelle elle s'est déroulée, non plus. Les fossiles d'abeilles ne sont pas rares, mais la grande majorité date de moins de 65 millions d'années, au moins. Et les spécimens retrouvés sont déjà similaires aux abeilles modernes. Donc on ne sait pas, on cherche. Alors, cette nouvelle espèce, Discoscapa apicula, elle possède une mosaïque de traits primitifs et modernes. C'est ce qui est décrit dans la revue Bio One par son découvreur. Et elle diffère justement de toutes les abeilles connues jusqu'ici. Et elle était déjà palinivore, cette abeille, à 100 millions d'années. C'est quand même extraordinaire, puisque plusieurs grains de pollen ont été retrouvés accrochés sur ses poils. Je trouve ça assez fabuleux, 100 millions d'années plus tard. Et c'est la preuve qu'elle venait de visiter une ou plusieurs fleurs et qu'elle avait déjà évolué pour en récolter le produit. Alors, dans la pièce d'ambre, il y avait aussi une vingtaine de larves de trianguline, des coléoptères qui parasitent les abeilles et qui existent encore de nos jours. Au moins 5 des larves sont en contact direct avec l'abeille et les autres étaient réparties autour. Elles ont dû s'accrocher quand cette dernière était en train de butiner et il est possible que leur poids soit responsable de la chute de l'abeille dans la résine. Donc c'est génial, on apprend énormément de choses. L'ambre, c'est une formidable aide pour justement emprisonner un piège de résine pour tous ces animaux. Ce sont en fait les conifères qui sécrètent la résine qui forme l'ambre. Ces arbres sont apparus au Carbonifère, mais ont connu une évolution radiative durant le Jurassique, il y a 200 millions d'années. Donc c'est donc principalement à partir de cette période-là que sont datés la plupart des échantillons fossiles que l'on retrouve à l'intérieur de l'ambre. Dans leur gang, ils sont préservés des altérations du temps et sur certains échantillons particulièrement bien conservés, les scientifiques peuvent pratiquer des mesures morphologiques d'une grande précision, voire parfois observer la couleur d'un fragment de peau ou d'un plumage. Donc je trouve que c'est extraordinaire.
Je vois dans tes yeux, Carole, que tu es totalement fascinée par cette information de cette abeille de 100 000 ans.
Oui, 100 millions
100 millions d'années.
Oui, oui, parce que il y a une petite... c'est son arrière-arrière-grand-mère.
Oui, c'est qui... ça, oui. Et du coup, on va en tirer quoi comme information?
Eh bien justement, là, c'est essayer de trouver l'explication. Comment est-ce que, sur toute la lignée évolutive de l'abeille, comment elle a évolué depuis cette fameuse... Tu n'écoutais pas.
Si, j'écoutais, mais je me disais, est-ce qu'on veut aussi avoir des informations sur la flore qui existait grâce au pollen également? Ça peut être des choses qui peuvent être utiles.
Alors,
ou pas
ça,
du tout?
Ça peut, parce qu'il y a aussi beaucoup de végétaux qu'on retrouve emprisonnés dans l'ambre. Mais là, je pense que globalement, ça va plus essayer... les chercheurs vont plus étudier, en fait, cette lignée des abeilles pour comprendre leur évolution et comment la transition s'est faite justement à partir de ces fameuses guêpes comment est-ce qu'elles sont devenues amatrices de pollen, comment est-ce qu'elles ont switché au niveau de cette alimentation, et aussi au niveau des caractéristiques, puisque là, justement, visiblement, ce fossile, il possède des caractères, donc j'imagine, morphologiques, hein, modernes et primitifs.
Eh bien, on suivra ça. Ce sera intéressant de savoir un petit peu. On le saura pas tout de suite, à mon
avis. Non,
à mon
avis, on a un petit peu le temps encore.
On a encore le temps d'attendre quelques millions d'années pour savoir ça. Je rappelle que c'est la Compiègne Geek Convention aujourd'hui. On dit peut-être convention, hein, je n'en sais rien. Peut-être qu'on le dit en anglais, on ne sait pas. On va dire convention, on va rester très français. Aujourd'hui à Marnier-les-Compiègne et demain également au Tigre. Compiègne Geek Convention avec des jeux de plateau, espace gaming, conférences, expo, boutique, concerts, artistes. Et cosplay également. Donc voilà, vous pouvez vous rendre au Tigre à Margny, dans la région de Compiègne. C'était Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, bien sûr, graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et partout ailleurs, évidemment, grâce à Internet, en direct ou en différé, grâce au podcast. Merci Carole, on te retrouve la semaine prochaine.
Merci Jean-Noël, bien sûr.
Avec des informations plus réjouissantes.
Oui, on va continuer. Oui. Non, mais bien sûr, on va continuer à passer en revue l'actualité scientifique avec toujours nos sujets de prédilection, découvertes en biologie, sur le comportement animal, des petites découvertes insolites aussi.
Eh bien, on verra ça samedi prochain, 12h, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité. On se retrouve samedi. Et d'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.